Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Calade. Au sommaire de notre édition, mobilisation devant les portes de la Givre Beaujolais-Val de Saône, association engagée aux côtés des personnes en situation de handicap et de leur famille à Villefranche. Plus d'une centaine de personnes réunies pour alerter contre la dégradation des conditions de travail plus particulièrement. Puis, grande journée du souffle le 21 novembre à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche. Un test de spirométrie qui mesure la santé de vos poumons était proposé à l'accueil. Avec nous Delphine, infirmière. Et pour conclure, Lucie Borletot signe un second long métrage tiré du roman de Leïla Slimani, Chanson douce. L'adaptation du film éponyme laisse toute sa place à cette chronique sociale aux accents de thriller psychologique. Lucie Borletot était l'invitée des rencontres du cinéma francophone en Beaujolais 2019. Calade, le journal. Cet imparfait qui se glisse partout. Je faisais du sport, j'adorais danser sur les bords de la Marne. J'aimais beaucoup mon travail. Je faisais tous les travaux à la maison, je jouais aux boules. C'était avant qu'une petite boîte bleue s'invite dans le quotidien de Stéphanie, Michel, Odette, Patricia, Corinne, Elisabeth, Khalil, Michel, Annie, Dominique ou encore Galia. Tous se sont vus prescrire du Mediator. 3 comprimés par jour pendant 2, 3, 5, 6 ou 10 ans. Article du journal Le Monde. Ce jeudi 21 novembre, le procès du Mediator a dévié pendant quelques heures du cours aride dans lequel les débats scientifiques le contenaient. Aux experts, aux hauts fonctionnaires et à leurs mots policés ont succédé les flots de mots enragés, maladroits, douloureux, de celles et ceux dont ce médicament a saccagé la vie. La plupart se souviennent de leur première fois, de leur confiance aveugle dans la prescription donnée en 15 minutes par le médecin traitant ou l'endocrinologue auquel ils avaient confié leur envie de retrouver la ligne après une grossesse, de réduire leur surpoids ou leur crainte face à un diabète naissant. Des effets secondaires auxquels ils ne prêtaient pas trop attention. J'étais essoufflée, je mettais ça sur le compte de mon travail. Jusqu'au jour où un cardiologue leur a annoncé un mot inconnu. Valvulopathie. Un jour de 2009, Stéphanie a reçu dans sa boîte aux lettres un courrier de la Sécurité sociale lui enjoignant de faire des examens cardiaques. Elle prenait du Mediator. Depuis 3 ans, le médicament venait d'être retiré du marché. Le verdict est tombé. À 40 ans, c'était épouvantable. À 49 ans, aujourd'hui, sa colère déborde. Je suis bourrée de haine. Le Mediator m'a fait autant de mal physiquement que psychologiquement. J'avais plein de projets. J'ai tout abandonné à cause de lui. Mobilisation devant les portes de la Givre, Beaujolais-Val de Saône, association engagée aux côtés des personnes en situation de handicap et de leur famille, au 408 rue des Remparts à Villefranche, cette matinée. Plus d'une centaine de personnes réunies pour alerter contre la dégradation des conditions de travail, plus particulièrement. Manque d'effectifs, redonner du sens à un service d'accompagnement bienveillant auprès des personnes et non un service comptable à des fins de rentabilité. Les témoignages tout de suite.
Moi, je suis Périne, éducatrice spécialisée à la Givre.
D'accord, très bien. Et aujourd'hui, il y a 2 jours de mobilisation, effectivement, aujourd'hui, devant le siège.
On a eu une première journée de grève mercredi, qui a été, pour des raisons d'organisation et tout ça, reconduite aujourd'hui. Voilà, pour aussi qu'on puisse, avec notre conscience professionnelle, être aussi là auprès du public pour un peu expliquer aussi nos mouvements de grève, parce que c'est aussi pour eux qu'on fait grève, pour négocier avec la direction des conditions de travail décentes, parce que là, elles sont détériorées depuis quelques années, et là, on veut dire stop, là, on veut tirer la sonnette d'alarme. On est tous les établissements de la Givre représentés aujourd'hui, donc le pôle enfance, le pôle habitat, le pôle de soins et d'accompagnement pour des personnes du coup en situation de handicap. Et aujourd'hui, ce qu'on revendique, c'est on fait face à un manque d'effectifs, à des conditions de travail qui se détériorent, avec des congés qu'on veut nous supprimer alors qu'on est déjà épuisé. La direction ne met plus du tout de sens dans ce qu'on fait auprès des gens. On nous parle d'accompagnement individualisé de la personne, mais au final, la direction nous répond en termes de chiffres. Donc nous, pour pouvoir faire nos professions à l'heure actuelle, on a besoin d'autre chose que de parler en termes de chiffres. Nous, on n'est pas là pour faire de la marchandise, on est là pour travailler avec des enfants, avec des adultes qui ont besoin de nous. Et c'est par conscience professionnelle qu'on fait cette grève, pas pour des hausses de salaire ou des revendications salariales, mais vraiment pour
les
nos
conditions de travail.
Voilà. Alors moi je travaille en IMA, donc pour ma part c'est des jeunes enfants en situation de handicap, mais j'ai des collègues qui sont plus sur du handicap de personnes adultes, voilà, d'accord, avec de plus en plus de déficiences aussi pour parfois le polyhandicap.
La GIVRE, c'est une association, c'est ça?
C'est une association, oui, à but non lucratif, hein, mais bien sûr financée par l'ARS. Au vu des personnes accompagnées et par le conseil régional en ce qui concerne une partie pour ce qui est de l'hébergement.
D'accord. Donc là, pour l'instant, vous l'avez dit, hein, pas de possibilité de discussion avec la direction, c'est bien ça?
Alors, on a été reçu mercredi par notre directeur général, notre DRH, directeur des ressources humaines, et en fait une délégation, mais qui nous a pas écouté, en fait, qui nous a pas entendu, qui est resté très fermé sur ses positions. Et aujourd'hui, nous avons été accueillis par un huissier de justice en nous rappelant les droits de la grève que nous connaissons. Nous sommes dans nos droits d'être là aujourd'hui, et suite à quoi la direction générale a choisi délibérément de partir sur le trottoir, et depuis nous n'avons pas de contact ni de nouvelles, et du coup on pense qu'ils ne nous recevront pas aujourd'hui.
Oui, les conditions de travail se dégradent, je pense, pour l'ensemble des salariés de la GIVRE, c'est-à-dire qu'il y a notamment des postes dans différentes structures qui ne sont pas remplacés, où le temps de travail est amoindri. Voilà, on nous en demande toujours plus, on est de moins en moins auprès des usagers et des résidents. Donc on dénonce ça, on dénonce dans nos conditions de travail aussi les congés supplémentaires qui veulent actuellement nous supprimer. Enfin voilà, tout se dégrade.
Et qu'on n'a pas de réponse. Là pour l'instant, on n'a aucune réponse. Voilà, monsieur Ronja
se sauve.
Voilà, c'est un manque de considération total. Il s'enfuit, il refuse le dialogue, donc nous, on lâche rien.
Et ben en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je trouve que voilà, niveau bienveillance et maltraitance, on en est là, quoi, en fait. Ils nous disent qu'il faut être bienveillant et maltraitant auprès des personnes accueillies, mais le souci, c'est qu'en fait, la direction ne montre pas l'exemple et nous parle un peu comme des moins que rien. Voilà, on est pris pour des pions, on est bougé à droite à gauche, et en même temps, la violence des propos et des comportements est pour moi inadmissible, voilà.
Les témoignages d'une mobilisation en matinée des 21 et 22 novembre des personnels de la GIVRE Beaujolais Val-de-Saône, association engagée aux côtés des personnes en situation de handicap et de leur famille, à Villefranche, protestant contre la dégradation des conditions de travail, plus particulièrement le manque d'effectifs et le souhait de redonner du sens à un service d'accompagnement bienveillant auprès des personnes et non un service comptable de rentabilité. Grande journée du souffle le 21 novembre dernier à l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche. Dans le cadre de la journée mondiale contre la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, maladie chronique inflammatoire des bronches, un test de spirométrie qui mesure la santé de vos poumons était donc proposé à l'accueil. Nous sommes en compagnie alors de Delphine, infirmière.
Alors en fait, hier c'était la journée mondiale de la BPCO, et donc dans ce cadre-là, on fait une action un petit peu tous les ans pour faire connaître cette maladie. Et dans ce cadre-là, eh bien, on propose aux gens qui veulent bien de tester leur souffle.
Donc là, on est tout simplement à l'accueil, hein, oui, de l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche, et je vais moi-même tester mon souffle, mais je suis déjà essoufflée.
Alors. Voilà, donc là c'est prêt, donc il faut tenir ce petit appareil, prenez une grande inspiration, et ensuite il faudra souffler vite et fort en une seule fois en fermant bien la bouche autour de l'embout. Donc c'est parti. Et...
Comment s'appelle l'appareil ?
C'est un Neo 6, et c'est pour calculer en fait le volume expiratoire moyen par seconde. Hein, ça donne une image de voir ou pas s'il y a des troubles ventilatoires obstructifs. Bon, en fait, il a quand même fonctionné, votre test. Donc vous avez soufflé 2,37 litres, et par rapport à votre âge et vos tailles, ça correspond à 110% par rapport à la norme.
Et si jamais, par exemple, vous avez effectivement des personnes qui seraient sur des taux, comment...
Alors, bien sûr, c'est des résultats qu'il faut prendre avec précaution, parce que c'est juste un petit test du souffle, donc c'est pas non plus une spirométrie complète comme on a dans les services, voilà, qui est plus précise. Donc à ce moment-là, si on voyait qu'il existe peut-être un trou ventilatoire, on noterait le nom de la personne et on lui proposerait d'appeler le secrétariat pour prendre un rendez-vous pour un examen plus complet, et on transmettrai son nom à un pneumologue avec qui on a vu ensemble de faire cette démarche-là.
Et donc, il y a les services disponibles ici sur l'hôpital Nord-Ouest, hein ?
Oui, voilà. Dans le cadre de cette journée, on a dit qu'on pouvait faire ça pour les personnes qu'on dépisterait avec éventuellement un trouble ventilatoire.
Le test de spirométrie mesure la santé de vos poumons et peut diagnostiquer et surveiller des affections respiratoires. Le souffle, important, pour évaluer son état de santé, la tension artérielle, l'essoufflement qui s'installe. À l'occasion de la journée mondiale contre la BPCO, la Fondation du souffle lançait donc une campagne de sensibilisation BPCO dans le cadre de la prévention, d'évaluer un diagnostic, la traiter durant tout le mois de novembre. Et pour conclure cette édition, après le très remarqué Fidelio, l'Odyssée d'Alice, la réalisatrice Lucie Borleteau signe un second long-métrage tiré du roman de Leïla Slimani. Chanson douce, l'adaptation du film éponyme laisse toute sa place à cette chronique sociale tirée d'un fait divers aux accents de thriller psychologique tenu par l'interprétation de Louise, nounou à domicile, par la comédienne Karine Viard. Un film qui fait référence ici non pas à l'amour angélique ou bienveillant, mais à un amour salvateur, tout d'abord, dévastateur, et pour finir, morbide. Lucie Borleteau était l'invitée des rencontres du cinéma francophone en Beaujolais 2019.
Lucie Borleteau, donc, j'ai envie de dire que c'est un film d'amour, un film des amours, mais pas dans le romantisme, bien évidemment.
Je trouve ça assez original comme manière d'aborder le film, et je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, c'est une des premières choses que Karine m'a dit quand on discutait ensemble du rôle.
Alors moi, je m'appelle Louise.
Un rôle qu'elle a vraiment voulu jouer, en fait. Hein. C'est vraiment elle qui s'est mobilisée pour acquérir les droits du livre, enfin, avec des producteurs, évidemment. En fait, elle m'a dit comme ça, pour elle, c'était l'histoire d'un amour blessé, d'un amour humilié. C'est pas seulement une histoire d'humiliation sociale, même si ça l'est complètement. C'est-à-dire que, effectivement, cette femme, elle est dans une solitude absolue. Elle a l'impression de ne plus avoir de place dans la société. Elle va avoir l'impression de trouver une place au cœur de cette famille. Et elle a un lien d'amour très fort qui l'unit aux enfants.
Excusez-moi, mais je crois que quelqu'un est en train de se réveiller.
Oh, vous avez Louis-Fine.
Oui.
Et quand elle sent que cette place pourrait lui être reprise, qu'on pourrait lui reprendre tout ça, c'est là qu'elle se met à dévisser, quoi, en fait. Et pour moi, quand vous dites un film d'amour, c'est aussi que moi, j'ai fait aussi, parce que je ne sais pas faire autrement, c'est ce que je fais dans tous mes films, mais j'ai filmé tous ces personnages avec une forme d'amour. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est qu'ils sont très ambivalents. À la fois, c'est pas du tout angélique, parce qu'on peut les trouver agaçants, on peut les trouver flippants. Il nous renvoie aussi à nous-mêmes, à nos travers, etc. Et en même temps, c'est très important pour moi qu'on puisse être en empathie avec eux. Je ne voulais pas que ce soit cynique et qu'on les regarde d'au-dessus. Donc j'aime beaucoup que vous parliez du film comme ça.
Myriam, vous pouvez partir tranquille.
Bisous mes chéris.
Alors je rebondis effectivement sur ce qu'on vient de dire avec l'histoire de la blouse. De la fameuse nounou providentielle, cette blouse, je sais pas, qui est un élément de décor important, moi je pense.
Le costume.
Voilà, le costume de la nounou.
Oui, oui, tout
donc
à fait.
On se
au
relâche.
Début, on peut croire aussi qu'elle va apporter un peu d'ordre dans cette famille, qu'il y a du positif, quoi, même si assez vite ça se délite. On se dit, bah oui, oui, ils ont choisi la bonne personne. Et puis c'est vrai que sur le travail de costume, par exemple, avec la costumière Dorothée Guiraud, puis avec Karine Viard, on avait fait un premier essayage où moi je trouvais ça plutôt pas mal, etc. Et puis Karine ne le sentait pas du tout en fait, elle trouvait que ça faisait un truc déguisé. Donc on a fait une longue séance de travail où en fait on a trouvé que, parce qu'elle ne porte pas tout le temps spécialement une blouse, elle n'a pas d'uniforme, on n'est pas dans un pays, nous, comme les pays d'Amérique du Sud par exemple, où c'est courant d'avoir une bonne à la maison qui s'occupe des enfants. Mais elle a une silhouette qui renvoie, pour moi ce que je trouvais bien, qui renvoie un peu à la silhouette de ces métiers du care, qui sont toujours envoyés systématiquement quelque chose de féminin. C'est-à-dire qu'on pense toujours que les femmes, elles vont y trouver du plaisir en fait à s'occuper des autres, voilà, à s'occuper des personnes âgées, des enfants, être infirmière. Et j'aimais bien que les robes qu'elle porte, qui sont un petit peu désuètes, ainsi que cette blouse qu'on se dit que peut-être elle était à sa mère ou qu'elle a dans ses affaires, qui a un côté un peu intemporel, ça rappelle un petit peu cette figure. Et effectivement, dans le cadre d'un film qui va faire des incursions dans le film de genre, c'est toujours un ressort de se dire c'est la figure parfaitement rassurante qui peut devenir tout d'un coup terrifiante. C'est là que ça devient intéressant.
Je pense qu'il est temps qu'on s'en sépare.
Puis j'ai plus envie de m'occuper de quelqu'un d'autre, à part des enfants. Hein.
Et tu vas faire comment quand ils seront plus là?
Ils seront toujours là.
Ils ont confiance. Ils savent.
Chanson douce, film de Lucie Borloteau, en sortie nationale le 27 novembre. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.